Les plumes sur RCN, présenté par Mona.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Rouillère pour son roman « Meurtre au Mont-Saint-Odile » publié chez Viviane Ami Éditions et Bernard Collin pour son roman « La perspective des horizons » publié aux éditions Rebeline. Bonjour à vous trois et bienvenue.
Bonjour.
Alors, nous allons commencer avec Nathalie Rouillère et son roman « Meurtre au Mont-Saint-Odile ». Alors Nathalie, quel a été le point de départ de ce roman ? Vous avez toujours voulu écrire une intrigue policière se déroulant au Mont-Saint-Odile ?
Alors pas du tout. En 2018, j'ai eu l'occasion de participer à un séminaire de la MGEN, puisque je suis élue MGEN dans les Vosges. Et ce qui se passait au Mont-Saint-Odile, donc on y a passé 2 jours, 1 nuit, en semaine, entrecoupé de réunions, et le soir on a fait une visite, et c'est pendant cette visite, qui est d'ailleurs décrite avec le guide vosgien, que j'ai vu ce cadavre dans une tombe mérovingienne, et je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose. Voilà, donc j'ai acheté des livres que j'ai pas lus tout de suite, et il m'a fallu un certain nombre d'années avant de m'y mettre.
Alors quels aspects de ce lieu vous ont particulièrement inspiré en fait ?
Eh ben, le mur païen, au départ, c'était vraiment le... Parce que c'est la grosse question, tout le monde se demande depuis quand il est là et on n'a pas vraiment de réponse. Et puis après, j'ai découvert les lieux sur place et ces tombes mérovingiennes. L'impression que sur le même lieu, il y a toutes les époques, quoi. C'est assez particulier.
Oui, oui. Bon, puis il y a aussi beaucoup de légendes. Hein.
Oui, je suis tombée donc, sur le livre de Marie-Thérèse Fischer sur 12 siècles d'histoire du Mont-Saint-Odile. Là, il y a 1500 pages, donc j'avais de quoi puiser dans les légendes. Oui.
Oui. Alors, vous pourriez, pour ceux qui ne connaîtraient pas, un petit peu planter le décor du Mont-Saint-Odile ?
Eh bien, c'est une abbaye qui est sur un promontoire à l'extrémité des Vosges, à 30 km de Strasbourg. On a une vue sur la plaine d'Alsace qui est magnifique. Et en fait, cette abbaye, elle n'est pas si vieille que ça, parce qu'elle a été détruite régulièrement. Au départ, on pense à un château fort, même si avant, il y a certainement eu encore d'autres choses. Mais château qui a été donné par le seigneur du lieu à sa fille pour se faire pardonner, parce qu'il avait voulu la tuer. Enfin, c'est très compliqué, mais c'est expliqué. Et du coup, ce château est devenu, au fur et à mesure, une abbaye. Alors au départ, ce n'était pas des bâtiments solides. Et comme la foudre tape régulièrement sur cet endroit-là, il a brûlé, je ne sais combien de fois. Donc les bâtiments, en fait, ne sont pas si vieux que ça, parce que ça a été reconstruit énormément de fois.
Mmh. Alors, vous pouvez nous parler de votre roman ? Je vais vous laisser présenter votre roman.
C'est-à-dire qu'on retrouve donc l'équipe d'ACAM, et notamment le médecin légiste Édouard et sa chérie Maggie Muser. Et en fait, il l'a invité un week-end au Mont-Saint-Odile parce qu'il a décidé de la demander en mariage. Donc, ils arrivent là-bas et ils vont commencer par la visite, justement, par un guide vosgien qui va les amener faire le tour des endroits particuliers du mur païen et des différents points de vue à voir. Et c'est au cours de cette visite qu'ils vont donc découvrir, dans une tombe mérovingienne, le corps d'une jeune femme. Mmh. Donc, ils vont tout de suite prendre les choses en main en tant que flic et légiste. Et du coup, ils vont être nommés sur l'enquête, puisque apparemment, sur Strasbourg, il y a un petit problème de personnel, les procureurs se mettent d'accord et du coup l'enquête leur revient, donc Thomas va être envoyé là-bas aussi pour rejoindre Maggie Muser
parce que Thomas
il est inspecteur aussi, donc c'est l'équipe de Nancy donc ils sont envoyés, alors que ça aurait dû être Strasbourg, mais finalement ils envoient quand même une inspectrice strasbourgeoise
pour superviser un petit peu tout
ça. Pour superviser, puis surtout elle parle beaucoup de langues, donc c'est très organisé, très à la mode alsacienne, donc pour les Lorrains, c'est un bon point pour eux en tout cas. Mm-hmm. Et puis voilà, donc Thomas va s'en aller en laissant ACAM sans savoir où il va exactement.
Alors
donc,
pour ceux qui ne connaîtraient pas ACAM,
c'est la détective privée, donc c'est l'amante de l'inspecteur qui elle est plutôt messine. Et du coup, comme ils avaient prévu un week-end tous les deux, elle se retrouve toute seule, et ça, elle n'aime pas, surtout qu'il ne lui dit rien. Il essaye de cacher la vérité. Donc forcément, elle va essayer d'en savoir plus et se mêler de l'intrigue.
Oui, parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de se mêler des enquêtes.
C'est ça. Et du coup, elle va essayer d'aller là-bas une fois qu'elle va comprendre ce qui se passe, et tout va se passer sur place, dans les lieux mystérieux et mythique du coin. Voilà.
Alors, votre héroïne, Akam, est un personnage récurrent dans vos romans. Alors, dans combien de livres est-ce qu'elle apparaît ?
Ben, c'est sa septième enquête.
Septième enquête, d'accord. Alors, pourquoi est-ce que c'est le seul personnage qui n'a pas de prénom ?
Ben, parce qu'elle n'en a pas.
Ah bon ?
Et c'est rigolo parce que personne ne m'a jamais demandé son prénom. Il n'y a que l'éditrice qui m'a posé la question. En me disant, elle n'a pas de prénom. Ben, je dis non. Et ça gêne personne qu'elle n'ait pas de prénom.
Ben, moi aussi, ça m'a toujours un petit peu surprise. Bon, mais
elle n'en a pas.
Non ?
Bah, si elle en a un, mais je ne le mets pas.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est vraiment le seul.
Peut-être qu'un jour, on saura.
D'accord.
Je ne sais pas.
On va faire un concours, trouver le prénom. Bernard ?
Oui, moi, je sais, mais je ne dirai rien.
Non, il ne faut rien dire.
Oh, c'est incroyable, ça. Alors, la relation du couple Akam-Thomas-Michaelis.
C'est ça. Alors, c'est la petite différence.
Oui.
Donc, je peux en dire deux mots parce que j'ai eu une discussion avec l'éditrice avec ça. C'est-à-dire qu'elle, apparemment, dans le monde de l'édition, on n'aime pas trop qu'il y ait deux prénoms. Parce que Thomas, c'est un prénom et Michael, c'est un prénom.
D'accord.
Donc, elle voulait. Moi, je ne voulais pas changer non plus le mot. Donc, elle m'a proposé Michael Mas. Ah, je trouvais que ça faisait un peu lourd, Thomas, Michael Mas. Oui. Et puis Michaelis, je trouvais que ça faisait plus exotique.
Oui.
Et ça tombait bien, parce qu'à la fin, il y a tout un passage dans un chapitre sur les noms de famille.
Mm-hmm.
Et du coup, je trouvais que c'était plus sympa de prendre Michael. Et puis ça se rapproche, Michaelis, Michael.
Oui. Donc le couple Akam-Thomas, la relation est plutôt explosive. Hein.
Oui, c'est un couple, on a plutôt l'impression que c'est surtout pour être au lit qu'ils sont bien, mais en dehors, ils s'engueulent tout le temps. Quoi, donc... Bon, c'est peut-être assez courant aussi, hein, finalement.
Oui, bien
mais
sûr.
Mais bon, c'est comme ça. Mais je pense qu'ils s'aiment profondément. Comme ils ont leur caractère, surtout elle a son petit caractère.
Ah bah, puis aussi, je pense que leur profession... fait obstacle un peu au fait qu'il soit...
Oui. Lui, il est inspecteur, elle est détective, elle se mêle de tout, elle n'a pas le droit, donc lui, ça l'embête aussi. C'est compliqué, on va dire. Mais bon, lui, il ne sait pas trop mentir, elle a l'instinct féminin, elle comprend très vite quand il y a quelque chose.
Quand on lui tait les choses.
Voilà.
Alors, il y a d'autres personnages récurrents, comme Sid, le fils d'Akam, l'inspectrice Maggie Muser et le médecin légiste Édouard Janvier. Un nouveau personnage apparaît, Sidonie. C'est une jeune femme pétillante et qui a beaucoup de ressources.
Oui. Bah, Sidonie, dans ma tête, c'était un petit peu une Akam plus jeune.
Oui.
Hein, qui aurait pu, à 25 ans, être un peu ce... Bon, certainement pas. Elle n'aurait certainement pas bossé dans une abbaye, puisque... elle n'est pas du tout tournée vers la religion, mais en tout cas, dans son comportement, le fait de vouloir savoir, de mettre son nez partout, voilà, de prendre des risques, je trouvais que ça faisait une Akam plus jeune. Quoi.
Oui, parce qu'elle connaissait Akam aussi, enfin de réputation.
Elle, de réputation, parce qu'en fait, c'est une amie de son fils, de Sid et d'Armel, donc c'est une amie proche, qui est au courant, parce qu'eux, ils doivent en parler régulièrement. Et du coup, elle trouvait que c'était génial de se retrouver au milieu de l'enquête comme ça.
Ah oui, c'est sûr. Bon, elle prend des risques. Hein.
Oui, elle a pas froid aux yeux,
non,
en fait.
Mais
je pense qu'elle ne réfléchit pas trop non plus aux conséquences de ses actes. Elle est un peu naïve aussi, je pense.
Ouais, jeune.
Oui, voilà,
simplement.
Elle est jeune,
oui.
Exact.
Alors, comment construisez-vous le suspense ? Les indices, les fausses pistes, le rythme des chapitres ? Comment ça se passe, ça ?
Disons que moi, j'ai pas de plan au départ, hein, donc je pars sur une scène. Donc dans ma tête, c'était ça doit être le chapitre 3 ou 4, la visite avec le guide. Donc j'avais cette scène-là dans la tête, mais il fallait effectivement
broder autour.
Mmh. Alors, on n'a pas... Au niveau de l'intrigue, elle est restée telle que je l'avais conçue. La seule chose que m'a fait rajouter l'éditrice, c'est le journal intime du tueur.
D'accord.
Voilà, ça, on l'a rajouté parce que justement, à la fin, il découvrait le journal intime. Donc, elle m'a suggéré de rajouter par-ci, par-là, une... voilà.
Oui, alors que j'ai trouvé que c'était... ça imitait pas mal de livres qui...
C'est possible, je sais pas. Mais c'était pas mon idée à moi au départ. Mais bon, c'est vrai que c'était un peu un challenge parce que il fallait... c'était court, mais il fallait pas non plus dévoiler des indices trop vite.
Bah,
donc, il fallait
sûr.
Que ça dépende de ce qu'il y avait déjà eu avant. Il fallait trouver le ton, etc. Donc, non, c'était un challenge. Puis apparemment, tout de suite, j'ai mis aux bons endroits. Ça a bien marché. Alors après, pour l'intrigue, donc j'étais partie sur cette idée de porte, de recherche de porte temporelle et toute cette archéologie qu'il y a eu, parce que finalement, il y a eu de l'archéologie, mais qu'à certaines époques. Après, il n'y a plus rien. Quoi.
Oui, maintenant, oui.
C'est un site où il n'y a plus rien du tout. Alors que le problème, c'est qu'il faudrait fouiller sous l'abbaye elle-même. Donc, ce n'est pas possible.
Il faut attendre un feu. Il faut attendre la foudre.
Je ne sais pas. Mais bon, c'est très, très riche. Donc, je me suis pencher sur toute cette période archéologique qui situe en fait beaucoup pendant la guerre, la dernière guerre mondiale, parce que les Allemands étaient férus d'archéologie. Donc ça m'a rappelé Indiana Jones et compagnie. Donc il y avait tout ce côté-là qui me plaisait bien aussi. Donc après, voilà, donc tout se basait sur justement le fait que c'était très épais en légende, etc. Hein, tout ce qui était vrai, faux, on ne sait pas. Il y a plein de suppositions, ne serait-ce que pour le mur païen, entre les druides, les celtes. J'ai même lu qu'il y aurait des... quand il y a eu les invasions barbares, ils sont forcément arrêtés là. Il n'y a rien dessus, mais je pense qu'il y a forcément... D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être eu une tribu venant des pays de l'Est. Donc, je pense qu'il y a plein de choses. On pourra encore écrire un deuxième roman sans parler de tout ce que j'ai parlé, je pense.
Oui, c'est vrai. Mais je ne comprends pas effectivement pourquoi les fouilles se sont arrêtées, parce qu'il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire, mais je pense que là, pour le mur païen, ils ne peuvent pas trouver plus que ce qu'ils ont déjà trouvé. Et tout le reste se situe en dessous de l'abbaye. Donc comme l'abbaye, elle a été complètement rénovée, tous les sols sont pavés, etc. Il faudrait tout détruire, quoi.
Alors, dans votre récit, vous parlez du crash d'avion qui a eu lieu au Mont-Saint-Michel en janvier 92. C'est un événement qui est resté dans les mémoires ?
C'est-à-dire que, oui, là-bas, et puis les gens qui étaient touchés, parce que les jeunes, aujourd'hui, ils savent pas ce que c'est. Hein. Mm-hmm. Mais bon, les gens de mon époque, oui, on s'en souvient, parce que c'est quand même assez proche pour nous de la région, quoi.
Et
là-bas, il y a une stèle, je trouve ça très bien. Ils ont fait une stèle, mais qui est perdue dans la forêt. C'est-à-dire que... on va pas y aller par... c'est les gens qui sont concernés. Donc, il y a ce côté un peu intimité sur la colline. Ça garde un côté mystérieux et très... très digne. Je trouve que c'est ça. Ça va bien avec le lieu, quoi. Ouais. Donc, oui, on pouvait pas ne pas en parler. Hein.
Oui, bien sûr. Alors ça, je ne savais pas. Vous parlez également de vol de livres anciens qui a eu lieu dans ce monastère.
Alors c'est assez rocambolesque. La cerise sur le gâteau, c'est quand je fais des recherches, je tombe sur des trucs comme ça. Donc c'est en faisant des recherches que je suis tombée sur un vieil article de journal, du DNA, je ne sais pas quoi. Et c'est une histoire vraie. Hein.
Oui.
C'est une histoire vraie. Donc l'intégrer, hein, ça faisait une nouvelle piste, ça permettait de mélanger un petit peu. Et puis quand j'ai découvert tout ça sur cette pièce secrète, tout ça, mais en fait, c'est parce que ça existe sur des cahiers. C'est des cahiers archéologiques, c'est des découvertes qui ont été faites, qui ont été citées. Donc, il n'y a pas grand monde qui le sait, que ceux qui s'y intéressent. Et moi, je suis tombée dessus. Donc, il y avait des tas de trucs super intéressants. Tout ce côté-là est vrai, en fait.
Oui,
bon,
oui.
Sauf que moi, je l'ai romancé à ma face, ma
bien
façon.
Bien sûr.
Quoi.
Mais en même temps, je veux dire, il y a beaucoup de références. Vous renvoyez les lecteurs.
Ils peuvent trouver après des détails.
Oui. Je suis allée par curiosité, je suis allée voir l'article quand même, parce que je me suis dit, tiens.
Oh, puis il y en a d'autres, une fois qu'on tape ce truc-là, il y en a plusieurs autres aussi. Oui,
oui. Alors, votre roman Meurtre au Mont-Saint-Odile a été publié chez Viviane Ami Éditions, alors que vos autres romans ont été publiés aux éditions Rebeline. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire des infidélités à votre maison d'édition d'origine?
C'est une rencontre en particulier, parce que l'éditrice Lise, elle est vosgienne, elle est du coin, sa famille est sur Épinal et elle a une petite maison près de Vittel-Contrex. Elle fait du cheval et il se trouve que ma fille était monitrice au centre équestre de Vittel. Elles se sont rencontrées comme ça et elles ont discuté. Moi, je sais que trouver un éditeur national, c'était s'ouvrir une porte aussi sur le national, justement. Mm-hmm. Donc, comme elle savait que j'avais un éditeur, hein, donc elle ne voyait pas trop pourquoi me voir. Donc, on a décidé de se rencontrer puis de discuter. Donc, on a discuté. Puis, en partant, elle m'a dit, si vous voulez, envoyez-moi votre prochain manuscrit. Mm-hmm. C'est ce que j'ai fait,
oui.
Sans y croire en fait, hein, sans
oui.
vraiment y croire.
Oui.
Et en fait, elle m'a, au bout de 15 jours, elle avait lu une cinquantaine de pages, elle m'a dit, attendez, parce que moi je lui avais dit, il faut une réponse rapide, parce que sinon, moi je le mets, je le propose à Rebeline, quoi. Et elle m'a dit, non, on peut faire quelque chose ensemble. Donc j'ai fait une infidélité à Rebeline, voilà.
Mm-hmm. Alors, est-ce que ce changement était profitable, et si oui, en quoi?
C'est-à-dire qu'il y a ce côté où ça ouvre des portes qu'on n'obtient pas, nous, en tant que petite maison d'édition. Quoi. C'est ça qui est dommage pour les petites maisons d'édition, mais bon, j'espère en profiter un petit peu.
Vous avez accès à des salons que...
Prochainement, je vais aller au Clos Vougeot dans 15 jours pour Livre en Vigne, qui est un salon qui se passe dans le domaine du Clos Vougeot. Donc, c'est une première pour moi, mais je ne pense pas que j'y serais allée sans la maison d'édition Viviane Ami.
Oui.
Je vais aller participer au FIG, alors que depuis des années, j'essaye d'y aller donc à Saint-Dié-des-Vosges. C'est sûr que c'est géographie, mais ils ont quand même, comme à Nancy, ils ont quand même un truc d'éditeurs régionaux, enfin d'auteurs régionaux. Et ils sont difficiles à... C'est difficile d'y accéder, et là, du coup, je vais y aller pendant 2 jours sur les 3 jours. Quoi.
Ah oui,
donc, effectivement, je suis allée au Salon du Livre à Metz, auquel je n'arrivais pas à accéder non plus, donc c'est quand même intéressant. Et puis des demandes de dédicaces dans des villes où je ne suis jamais allée, donc c'est sympa aussi.
Oui. Vous êtes allée cet été faire des...
Je suis allée à Mulhouse, j'en ai fait à Mirecourt, et là, je vais aller à Strasbourg, dans une médiathèque, faire une conférence sur la mort. On va s'adapter, mais bon, mon bouquin sera là et je ferai une séance de dédicace. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas.
Oui. Alors juste avant que l'émission commence, vous m'avez dit que vous aviez déjà sorti un autre roman.
Oui, je ne perds pas de temps parce que pour venir au livre sur la place, je compte sur Rebeline. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Donc là, j'ai repris Jolaine Marchal. Donc ça, ça restera Rebeline. C'est Jolaine, elle est vosgienne, c'est le terroir. Donc, là, j'ai réécrit un roman qui me taraudait depuis un petit moment, depuis que j'ai découvert le passé historique de Mirecourt. Donc c'est pas très vieux, en fait. Pourtant, je suis de Mirecourt. Et c'est parti d'une anecdote comme quoi Charles IV a fui Nancy lorsque le roi a voulu l'arrêter, puisque lui il défendait la Lorraine, était duc de Lorraine et duc de Bar, et du coup il s'enfuit, et c'est là que j'ai découvert qu'il était, non seulement il y avait la maison des ducs qui est la mairie actuelle, mais en fait il y avait un château qui n'existe plus du tout, qui était le château de la famille des Tuiliers, qui a accueilli, quand il s'est enfui, il est parti là-bas, se réfugier, expliquer. Donc ça, c'est vrai, c'est un fait historique. Donc du coup, j'ai construit toute une histoire où Jolaine, qui est... elle est à Lyon, elle est vosgienne, mais c'est vrai qu'elle travaille sur le commissariat de Lyon, et puis elle vadrouille beaucoup, puisque c'est une des seules de la police à être formée en profilage. Donc là, ça commence à Lyon, mais effectivement, rapidement, elle fait un lien avec Mirecourt, et elle fait tout pour aller à Mirecourt, et en fait, elle va se replonger dans le passé de Mirecourt, et on va découvrir avec elle... le passé de Mirecourt. Voilà.
Vous aimez bien mêler l'histoire à...
Moi j'adore. Mais de toute façon, en faisant des recherches, il y a tout de suite, ça ouvre des petites portes là. Et moi, mon imagination, elle est fertile. Là, je suis déjà partie sur un prochain ACAM. J'ai plein d'idées aussi. Ça y est, j'ai trouvé mes lieux, mon fil historique, etc. C'est ça. C'est une bonne aide, effectivement, pour plonger dans un roman un peu particulier.
Vous ne nous avez pas donné le titre du...
C'est Le Sceau de Charles.
Le Sceau de Charles.
J'ai un petit peu dévoilé, mais...
Le Sceau,
S-C-E-A-U. Voilà, on plonge dans l'histoire. Non, c'est pas Charles qui est en train de faire un pâté de sable. Non,
moi c'était SAUT. Non, c'était SAUT, moi je pensais plutôt
le Sceau. Ah oui, le Sceau, oui. Qu'on avait le choix, mais c'était celui-là qui m'intéressait.
Oui. Donc, d'accord. Et vous mettez combien de temps pour écrire un roman ?
Pour l'écrire, c'est pas... Si je fais que ça, je mets 3-4 mois. Ce qu'il y a, c'est la période de recherche avant. Voilà, qui va être plus ou moins longue, parce que je cherche en dilettante, je bouquine des trucs à un moment perdu. Tiens, j'ai une idée, je fais une recherche. Voilà, c'est ça. Là, j'ai déjà fait pas mal de recherches. J'en ai profité quand j'étais en vacances. J'emmène mon ordi, je tape des trucs. Je prends 2-3 bouquins avec moi. Et donc, à partir de lieux que je connais ou que j'ai visités. Après, je pars dessus.
Eh bien, écoutez, c'est bien. Alors, toujours des livres en cours. Vous en avez un sur le feu en ce moment. Mm-hmm. Et vous avez déjà des idées pour les suivants? Ça passe pas
bon, aussi
vite. Oui, c'est ça.
Oui, parce que là, j'ai quand même les deux là à continuer à...
Bien sûr, à faire vendre.
À faire vendre, enfin, à faire connaître, en tout cas, pendant au moins un an. Donc,
Et c'est pas difficile de passer d'une héroïne à une autre, parce qu'en fait, entre Jolène et Alka...
Elles sont justement, Jolène, elle est dans la police, donc elle, c'est pas... Puis elle est plus jeune. Voilà, peut-être que Jolène aurait pu être une Akam plus jeune, mais bon, parce qu'elle a aussi des problèmes avec son amant qui l'est plus. Enfin bon, bref, ça reste toujours.
Oui, mais ils sont.
Mais parce qu'elles sont toujours tellement préoccupées par ce qu'elles font que ça, c'est leur point commun, puis la recherche de la vérité, quoi.
Oui, mais c'est difficile de passer de l'un à l'autre comme ça, parce qu'elles n'ont pas les mêmes caractères quand même.
Mais il n'y a pas les mêmes personnages qui les entourent non plus, donc c'est. Non, j'arrive bien. Je ne pourrais pas écrire en même temps, par contre. Mais comme j'en fais un, hop, j'arrête, je passe à l'autre. Je vois bien mes personnages. Très visuel, donc je les vois bien,
Eh bien, nous allons rester dans l'univers d'Akam avec une chanson de Barbara, la petite cantate.
Merci.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, si mi la ré sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient facile, heureuse au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, si mi la ré sol do fa. Mais tu es partie fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile, fa sol do fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon, je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la. Avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Nathalie Rouillère, venue nous présenter son roman Meurtre au Mont-Saint-Odile, publié chez Viviane Ami Éditions, et Bernard Collin, venu nous présenter son roman La perspective des horizons, publié aux éditions Rebelline. Alors Bernard, le titre de votre roman est assez évocateur. Que représente pour vous la perspective des horizons?
Alors, la perspective des horizons, pour moi, ce sont tous les possibles. C'est le champ de tous les possibles, de tous les horizons qu'on aurait pu explorer.
D'accord. Bien. Alors, comment est née l'idée de ce roman? Quel était le déclencheur?
Alors, l'idée de déclencheur, c'est que je suis quelqu'un qui vit à la fois au présent, mais aussi beaucoup dans le passé. Et souvent, je repense à mes années lycée, à mes années travail. Et donc, j'ai repensé à un copain que j'avais quand je faisais mes études au lycée Poincaré à Nancy, qui avait beaucoup de fantaisie, et c'est parti de là. Ce personnage m'a inspiré Augustin, finalement le héros principal du roman.
Mmh. Alors, il est très difficile de présenter votre roman sans trop en dévoiler, donc même si les questions posées sur la quatrième de couverture nous donnent des pistes, je vous laisse donc nous parler de la perspective des horizons.
Alors, au départ, il y a une bande de copains, mais ce sont plus que des amis. C'est-à-dire, à l'adolescence, on se fait frère de sang, donc on mélange nos sangs, on se jure fidélité, confiance jusqu'à la mort. Et donc, c'est un groupe de 5 copains comme ça, ils ont le même âge, ils sont dans le même lycée, ils sont inséparables, ils font les 400 coups quand ils sont jeunes. Et il y a une sorte de chef de bande par sa fantaisie, c'est Augustin. Et donc Augustin, il les entraîne dans toutes sortes d'aventures. Et puis, forcément, la vie fait que chacun suit son cursus d'études différents. Et lui, il se dirige vers les études scientifiques, les autres partent vers d'autres domaines. Et finalement, il ne se voit plus parce qu'il y en a quelques-uns qui déménagent. Donc, ils se perdent de vue, mais ce qui reste en fond, ils sont toujours frères de sang. Et puis, un jour, Augustin, qui est donc un chercheur scientifique, qui travaille dans une société de missiles balistiques, donc c'est quelqu'un d'extrêmement compétent dans le domaine scientifique, mais il a une marotte, et sa marotte, ce sont les sciences occultes. Donc il adore faire des recherches, de l'alchimie, etc. Et donc il est passionné par la possibilité de mondes parallèles. Et il fait un jour une découverte extraordinaire. Et sa découverte extraordinaire, et ça je peux le dévoiler, c'est de pouvoir revenir à un point crucial de sa vie. C'est-à-dire à un moment où on était confronté à un choix. Soit un choix amoureux, soit un choix de lieu de résidence, ou même un choix de travail. Et donc lui, il met au point un système pour revenir au moment du choix. Mais ce qu'il y a, il aimerait bien expérimenter son invention, mais il a confiance en personne, parce que dans sa boîte, s'il se dévoile, il a deux risques. Soit il va passer pour un hurluberlu, et donc ça peut mettre sa carrière en péril, soit au contraire, on va trouver son invention géniale et lui piquer. Donc il se rappelle, en fait, en qui il peut encore avoir confiance, c'est ses copains de lycée, ses frères de sang, et il décide d'aller les trouver pour leur proposer son invention. De alors tester l'invention.
Voilà, il leur envoie une lettre à chacun. Hein. Il va les rencontrer les uns derrière les autres.
Il envoie une lettre à chacun pour les rencontrer et il va leur proposer de faire le grand saut dans le passé pour changer le destin. Mais il les prévient, attention, choisir, c'est renoncer. Si jamais vous acceptez de repartir dans le passé pour changer de vie, la nouvelle vie, elle se substitue à l'autre. Vous n'avez pas de souvenir de votre vie actuelle et surtout, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est un choix définitif. Et évidemment, comme toujours, rien ne se passe vraiment comme prévu. Certains acceptent l'expérience, d'autres non.
Il y en a qui sont satisfaits de leur vie, d'autres non.
Voilà, exactement. Quand on est très satisfait de sa vie, on n'a peut-être pas envie de vouloir la changer.
Oui.
Et puis, il y en a qui peuvent aussi réussir à la changer tout seul, sans aide d'alchimie.
Oui. Mais bon, je les trouve... déjà, quand ils étaient potaches, Augustin, c'était le gourou, en fait. Hein, c'était le chef.
Ah oui, complètement.
Oui, parce que tout le monde suivait, quand il faisait des bêtises, il proposait quelque chose, tout le monde suivait. Je veux dire, c'était... Et là, ils lui font confiance, parce que je veux dire, c'est quand même pas anodin de vouloir retourner dans le passé.
Oui, ils lui font une confiance absolue. Mais des fois, la confiance, elle est facile à obtenir. Par exemple, dans le cas d'un des personnages, il a une vie tellement pourrie, il se dit, si je prends la gélule et puis que je meurs, c'est pas grave. Et puis, en même temps, d'autres se disent... Il a toujours fait des plaisanteries des fois à retardement sur plusieurs années, comme on peut voir dans la suite du roman. Et il se dit peut-être que la gélule, c'est juste un puissant laxatif. Et puis, bah, tant pis, ça sera encore une des blagues à la con d'Augustin, quoi. Voilà. Donc, finalement, ils s'adorent entre eux. Donc, ils sont prêts à prendre des risques. Et ils savent très bien qu'Augustin va pas les tuer parce que c'est.
Bah oui, bien sûr.
Donc, ils peuvent prendre un petit peu de risques.
Oui, oui. Mais la maturité n'a pas changé le caractère d'Augustin. Il n'hésite pas à tester son invention sur sa voisine sans lui demander son autorisation. Certes, la voisine est exécrable, mais c'est quand même un petit peu limite, non ?
Oui, oui. Donc, c'est vrai que du point de vue... Il se le dit lui-même, d'ailleurs. Du point de vue déontologique, tester son invention sur sa voisine, Madame Méret, justement, oui. S'appelle Madame Méret. Mais en même temps, il s'en fout un peu parce qu'elle lui fait tellement de vacheries, elle est tellement désagréable. Il se dit, bon, au moins, si ça rate, ça sera un dommage collatéral.
Alors, à votre avis, est-ce que la science peut tout se permettre ?
Alors, justement, ça, c'est une vraie question déontologique. Est-ce que la science peut tout se permettre ? Alors, pour le commun des mortels et pour les scientifiques, non, mais pour Augustin, oui.
Oui. Oh, pour le... Il est quand même des scientifiques un peu fous. Hein.
Oui, bah, Augustin en fait complètement partie. Il était fou.
Bien sûr.
Il était fou jeune, il reste fou et fougueux en même temps. C'est quelqu'un d'assez particulier.
Mais là, il va simplement agir sur le destin d'une personne. Je veux dire, il ne change pas tout. Il ne change pas le reste du monde, en fait. Hein.
Voilà, c'est ça qu'il essaye de contrôler. Il veut absolument que son invention a des conséquences extrêmement limitées. Mmh. Il ne veut pas changer la géopolitique, il ne veut pas changer le monde, il veut pas... En fait, il a très peur de faire une catastrophe. Donc, c'est pour ça qu'il fait très attention au moment où il fait prendre cette fameuse pilule de retour en arrière. Il le fait à un endroit précis, à un moment précis. Enfin, il voudrait que tout soit sous contrôle.
Oui, oui, c'est sûr. Alors, est-ce que le destin existe ? C'est une question qui est posée sur la quatrième de couverture. Alors, vous semblez avoir déjà répondu, puisque comme incipit, vous avez choisi au destin qui pourtant n'existe pas.
Voilà, alors pour moi, le destin n'existe pas. Ce qu'on appelle le destin, c'est la conséquence de ses propres choix additionnés aux choix des autres et à la marge du monde. Et c'est ce mélange qui fait illusion, qui fait penser qu'il pourrait y avoir un destin. Mais en fait, au départ, c'est d'abord ses propres choix et puis les choix des autres quand ils nous concernent qui font que nos existences basculent d'un côté ou de l'autre. Mmh. Alors pour moi, le destin n'existe pas.
Bah pourtant, je sais pas, moi, quand il y a un enfant qui naît avec une maladie, auto-immune, par exemple, ou quand il y a la guerre, ça dépend. Alors, on subit. Il y a des choses qu'on ne peut que subir.
Oui, on subit, mais c'est pas quelque chose qui nous est destiné. Par exemple, un enfant qui naît avec des maladies, là, si on cherche bien, dans la génétique, il aura eu des ancêtres qui auront eu ça, etc. Et donc, avec une grande connaissance du passé, c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter simplement en faisant pas naître cet enfant. Et c'est peut-être quelque chose qu'on pourra guérir, parce qu'on peut naître avec des maladies qui... peut-être au cours de l'existence de la personne, vont trouver une solution, une guérison possible. Mmh. Donc, le destin n'existe pas. Je crois à la science, je crois au pouvoir de l'intelligence de l'homme, mais je ne crois pas au destin.
Mmh. Nathalie, vous croyez au destin ou... Oui.
Ça m'arrangerait, mais c'est vrai que je rejoins un petit peu ce que dit Bernard. Oui, c'est un grand mot, mais c'est pas prouvé, quoi.
Non, ben c'est sûr. Alors Bernard, vous poursuivez avec une citation de Noah Weinberg. Les gens évitent de prendre des décisions par crainte de commettre des erreurs. En réalité, l'incapacité à prendre des décisions est l'une des pires erreurs de la vie.
C'est exactement ça. Il n'y a rien de pire que l'indécision. Je vais prendre, vous savez que je suis un passionné de voiture, je vais prendre un exemple. On est dans la circulation. Si à un moment donné, on est dans une situation critique et qu'on hésite, plus on hésite, plus le risque d'accident est grand. Il faut prendre des décisions.
Bien sûr.
Et dans la vie, c'est pareil. Au niveau de... Par exemple, on va prendre au niveau amoureux.
Oui.
J'allais passer sur le travail, mais quand on rencontre la femme de sa vie et qu'on le sait, si on tergiverse, si on hésite, on passe à côté et une fois que le train est passé, il ne repasse plus. Mmh. Et donc, il faut prendre une décision tout de suite.
Mmh.
Voilà. Et pareil pour le travail. Si on sent que le travail, là, on peut l'avoir, il faut se battre. Il faut prendre des décisions. L'homme, il est fait pour prendre des décisions.
Mmh.
Quand je dis l'homme, c'est le genre humain.
Hein. Oui. Donc, la question de choix est centrale dans votre roman. Alors, un choix, des fois, est irréversible ?
Ah, souvent, il est irréversible, mais grâce à la rencontre avec Augustin, justement.
Bah oui. Vous nous donnerez son adresse.
Oui. En fait, Augustin, il offre sur un plateau à ceux qu'il rencontre de changer justement un choix qui aurait été mauvais et qui aurait pu se révéler irréversible.
Bah oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut changer le cours de sa vie soi-même ?
Alors, on peut changer le cours de sa vie soi-même facilement, en bien ou en moins bien, justement par ses décisions. Et même dans mon cas personnel, il y a un moment où j'ai quitté une société dans laquelle je travaillais.
Mmh.
Je sais que j'ai fait une erreur. Je n'ai pas rencontré Augustin et je l'ai payé pendant des années. Donc oui, on peut changer le cours de sa vie. On peut changer le cours de sa vie par des choix malheureux.
Oui.
Ou par des choix heureux.
Oui, effectivement. Et vous auriez rencontré Augustin ? Vous auriez pris la gélule ?
Alors, j'aurais rencontré Augustin. Oui, j'aurais pris la gélule. Oui.
Oui,
oui. Je serais remonté en 98, justement. Moi, je l'aurais pris du point de vue professionnel.
Mmh.
Et je serais remonté en 98, au moment où j'ai quitté une société dans laquelle j'étais bien, que j'aurais jamais dû quitter.
Mmh.
Et j'aurais pas quitté la société. Un petit peu comme un des personnages, d'ailleurs, qui est dans le roman.
Oui, oui. Et vous, Nathalie ?
Non, non, non. Moi, je ne prendrai pas la pilule parce que je pense qu'on s'est construit. C'est la vie qui nous a construit, peut-être nos choix, mais la vie aussi. Et non, je ne prendrai pas ce risque parce que l'être humain s'adapte, fait sa vie en fonction effectivement des événements et de ses choix. Mais revenir en arrière, ça veut dire que ça chamboule tout. Et moi, il y a plein de choses que j'assume, tout ce que j'ai fait, tout ce qui s'est passé en bien et en mal, parce que c'est ce qui me fait que je suis moi aujourd'hui. Mmh. Et comme ça me plaît d'être moi aujourd'hui, je ne voudrais pas retourner en arrière au risque de tout perdre.
Mmh. Et notre technicien, Joris, là, il prendrait la pilule, lui, ou pas? Il ne sait pas.
C'est l'indécision, même.
C'est l'indécision. Tu sais qu'il faut prendre des décisions, hein, si tu écoutes, Bernard. Bon, mais écoutez, on ne saura pas. Moi, je n'aurais pas pris la gélule non plus.
Moi, je suis un risque tout.
Alors, est-ce qu'il vaut mieux avoir des regrets ou des remords?
Il vaut mieux avoir des regrets ou des remords? C'est une très, très belle question philosophique.
Bah oui, parce que vous parlez de philosophie, donc voilà.
Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Vaut mieux prendre le risque et puis regretter ce qu'on a... Enfin, voilà, vaut mieux avoir des remords que des regrets.
Ne pas avoir osé.
De pas avoir osé, oui, parce que je suis dans une démarche volontariste. Donc, on fait les choses, puis après, tant pis pour les conséquences. Mm-hmm. Surtout qu'on ne connaît pas Augustin, donc on ne peut pas revenir en arrière.
Bah oui, c'est sûr. Et alors
au moins, justement, quand on tente les choses, on pourra se dire, j'ai essayé, ça n'a pas marché.
Oui.
Voilà, donc il n'y a pas de regrets à avoir. Ça marche ou ça marche pas.
Bien
sûr. Des moments que c'est pas catastrophique.
Oui, mais quelquefois il y a des choix qui impactent la famille en fait. Donc ça pourrait occasionner des remords éventuellement.
Oui, des remords, mais des regrets. Je pense que si déjà on risque de regretter toute sa vie un choix qu'on n'a pas osé faire. Mm-hmm. On se dit oui, mais si j'avais fait ça. Là au moins on a essayé, on sait que ça n'a pas marché. Ben voilà. Mm-hmm.
Alors, il n'y a pas que la science et la philosophie dans votre livre, il y a aussi l'amitié, et comme souvent dans vos romans, un petit côté fleur bleue. Alors, dans la perspective des horizons, ce sont les retrouvailles Alice-Augustin.
Ah oui, alors Alice, c'est un personnage, finalement, elle n'apparaît pas tout de suite volontairement.
Oui.
Et Alice, en fait, parce que Alice ne connaît qu'Augustin, parce que Alice n'est pas dans les mêmes classes de lycée que les autres copains. Et donc, lui, il la connaît parce qu'elle est un peu sa voisine. Et en fait, il est secrètement amoureux, mais comme beaucoup de gens très intelligents, chercheurs, etc., il est très timide. Il a jamais osé de se déclarer à Alice. Et il fait un stratagème pour être en contact avec lui, mais un truc à base de lettres complètement foireux, il faut le dire. Quoi. Donc...
Dans sa jeunesse, effectivement. Mais bon, ils arrivent à se... Sans gélule. Il arrive à retrouver.
Voilà. Et justement, il veut surtout pas avec Alice quand il est enfin avec elle. Il dit surtout ne prenons pas de gélule, ne changeons pas notre destin. Il a trop peur de changer quoi que ce soit. Là, il veut rester. Il est trop heureux d'avoir retrouvé Alice qui est quelqu'un de complètement inaccessible.
Oui.
Si c'était pas Augustin, il y avait aucune chance de pouvoir la rencontrer dans l'intimité.
Ben oui, c'est sûr.
Parce qu'Alice, on peut le dire, Alice, c'est une chanteuse.
Oui, c'est ça, une chanteuse. Elle m'a fait penser à quelqu'un, mais bon, peut-être que...
Alors, je me suis inspiré quand même de quelqu'un.
Oui.
Sur le décorum, sur le secret.
Oui.
En fait, Alice, elle a quelque chose de Mylène Farmer, faut
voilà,
le dire.
C'est ça, oui.
c'est évident.
Oui, effectivement. Alors, est-ce que vous avez une petite préférence pour l'un de vos personnages? Et si oui, lequel?
Alors, je les aime tous.
Oui.
Alors évidemment Augustin, parce que c'est le personnage central, mais en même temps, j'aime bien le personnage à qui il arrive plein de choses, et il déménage, il part pour acheter un hôtel, et il lui arrive tant de péripéties, il est poursuivi par des bandits, enfin, et lui, en fait, lui... Il arrive à changer de vie, puisqu'il change de nom,
oui.
Il change d'identité, il change de région, il change même d'aspect, puisqu'il se fait des implants capillaires quand il a perdu ses cheveux, etc. Et donc lui, il change complètement, et il réussit son changement sans gélule, en fait. Je voulais mettre ce personnage-là pour montrer qu'en fait, pour casser un peu le truc, pour un peu casser le mythe, on prend une gélule, puis tout s'arrange.
Oui, oui.
Donc lui, il prend son destin en main tout seul, et il change sa vie par ses actes audacieux.
Oui. Il y a aussi, la vie qui l'a obligé un peu à faire des choix. Je pense que pas ça trop, mais il y a eu quand même un événement marquant chez lui qui fait qu'il est obligé de faire des choix. Lui aura quelques remords quand même, déjà.
Vous pensez, hein,
oui.
Par rapport à quel choix?
Parce qu'on par peut... rapport à sa femme.
Par rapport à sa femme.
Par rapport au décès de sa femme.
Par rapport au décès de sa femme, oui, ça l'a obligé de faire des choix, mais aussi par rapport à la faillite de son entreprise, de son hôtel.
Sûr.
En fait, lui, il lui arrive quand même pas mal de malheurs, et il se reconstruit...
Il est résilient, lui, hein.
Oui, il est très résilient, puis il est très combatif. Mais déjà, quand je le décris à l'époque des amitiés, c'était quelqu'un de...
Oui.
D'assez teigneux, d'assez bagarreur. C'est quelqu'un qui se bat dans la vie, lui. Il n'accepte pas le destin. Lui, il ne croit pas du tout au destin. Lui, on peut le changer par le volontarisme.
Oui, oui. Alors, comment vous organisez votre travail d'écriture? Vous avez des rituels, des routines?
Alors, en fait, j'aime bien écrire les après-midi. J'écris jamais le soir, j'écris jamais le matin, je suis quelqu'un, j'écris l'après-midi. Mm-hmm. C'est le moment où je suis le mieux pour écrire. Et puis, une fois que j'ai les personnages en tête... Voilà, c'était finalement relativement facile parce que je me suis replongé dans mes années lycée. Et Augustin, c'est quelqu'un de bien identifié, que je connaissais, que j'ai perdu de vue très tôt, mais c'est la personne qui est décrite au début, celui qui traverse les rues en passant par une portière d'une voiture en sortant de l'autre.
Oui.
Et donc c'est quelque chose que j'ai vécu à l'époque. On faisait ça près du lycée Poincaré, quoi. Il traversait comme ça. Il était complètement excessif et fou. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et voilà, donc j'ai fait un peu de recherche. Et donc cette personne est décédée. Et ça m'a aidé à pouvoir écrire le livre, de fait qu'il ne puisse pas le lire. Parce que je pense que son destin était très différent de celui d'Augustin. Donc.
Mmh. Ah, moi, j'ai cru que c'était peut-être une bouée, comme ça, en disant peut-être que s'il tombe sur mon livre...
J'ai commencé à écrire, je ne savais pas qu'il était décédé. C'est en cours d'écriture que j'ai cherché cet ami Augustin, qui s'appelait pas Augustin, évidemment. Mais
oui, bien sûr. Ouais. Et quand vous commencez à écrire votre livre, vous avez déjà tout en tête ou ça? Vous lisez
alors,
les personnages évoluent?
Alors moi, j'ai un départ. J'écris, j'ai une situation de départ. Et la situation de départ, c'est mes souvenirs de lycée. Mes copains autour du lycée Poincaré, etc., etc. Leur personnalité un peu folle. Et puis d'un seul coup... Le personnage d'Augustin s'est imposé. Et il y a longtemps que je voulais écrire quelque chose sur les changements de vie. C'est quelque chose qui me façonne. C'est les gens qui réussissent à faire un changement de vie. Et j'ai trouvé le biais du fantastique pour pouvoir en parler, en fait.
Mm-hmm.
Parce que c'est du fantastique. Hein. Cette gélule-là n'existe pas.
Bien sûr.
Enfin, j'en ai quelques-unes dans ma poche.
Mais on sent aussi que vous êtes passionné par la science.
Oui, j'aime bien les sciences, c'est-à-dire j'ai bien aimé écrire le mélange de pur scientifique, de pur scientifisme, avec de l'occultisme, avec quelque chose, les sciences occultes. Je pense que j'étais content d'avoir mélangé les sciences occultes, quelque chose d'un peu obscur, d'un peu ancien, avec la rigueur d'un scientifique. Et je me suis toujours posé la question... Qu'est-ce qui se passerait si un scientifique pur et dur s'emparait des autres sciences qui sont oubliées? Et Augustin, c'est ce qu'il fait, en fait.
Mm-hmm. Vous pensez que l'IA pourra éventuellement s'imprégner des sciences qui existaient avant?
L'intelligence artificielle a des possibilités énormes, en fait, surtout dans les calculs,
dans sa mémoire aussi.
Dans sa mémoire. Mais en fait, c'est vrai que si elle combine tous les savoirs, effectivement, on pourrait peut-être, trouver la petite gélule d'Augustin.
Et vous êtes passionné par la science ou pas du tout?
Oh oui, moi j'aime bien tout ce qui est génétique, toutes les recherches un peu médicales. Pas toutes les sciences, hein, la physique, la chimie, c'est pas trop mon truc.
Mm-hmm.
Mais les sciences... Les recherches sur l'humain, le cerveau, le développement, tout ça, ça m'intéresse énormément.
Alors, vous avez des projets d'écriture, Bernard ?
Alors, j'ai commencé à écrire un livre et donc qui va être beaucoup plus noir que ce que j'écris d'habitude. Alors, c'est pas du tout un polar, mais c'est un livre qui va mêler les destins d'écorchés de la vie, de gens qui sont échoués, qui ont loupé leur vie et qui finissent par se rencontrer. Mm-hmm. C'est quelque chose d'assez noir, mais il y aura toujours une lueur d'espoir à la fin.
D'accord. Et vous avez déjà le titre ?
Alors je bute sur le titre, en fait.
Ouais. Le titre, ça vient une fois que le roman est écrit ? C'est un titre qui s'impose ?
Bah, moi, souvent, je mets un titre... Je mets un nom à mon fichier dans D'accord. l'ordinateur. Mm-hmm. Et parfois, c'est le bon titre. Parfois, je le change. Parfois, je l'ai tout de suite. Ouais. Pour le saut de charge, je l'ai eu tout de suite, puisque c'était historique et ça m'a paru... Et d'ailleurs, Bernard m'a demandé, mais tu mets pas quel Charles ? Bah, je dis non, c'est plus intéressant de découvrir. Comme justement, les gens vont peut-être penser à un saut. Tout le monde n'est pas fort en orthographe. Donc...
mais ça doit être difficile de trouver un titre qui...
Oui, il faut que le titre soit percutant.
Oui.
Par exemple, d'habitude, je commence à écrire que quand j'ai le titre définitif.
Ah,
et
oui.
pour une fois, non. Là, cette fois, j'ai commencé bien à écrire. Je n'ai pas le titre définitif et il va finir par s'imposer. En fait, j'avais un ou deux titres vraiment bien, mais il y a déjà des romans qui s'appellent pareil. Pas spécialement connus, mais j'aime bien avoir un titre ultra original. Donc, même si un titre, ça se dépose pas, mais...
Ah, oui, bien sûr.
Mais voilà, quoi.
Ah, ouais. C'est pareil pour Meurtre au Mont-Saint-Odile. C'était le nom de mon fichier quand je l'ai envoyé. Pour
D'accord.
moi, ce n'était pas le titre.
Ah, oui.
Et l'éditrice m'a dit « Si, bah, c'est très bien comme titre. » Ah bon, moi, je n'aurais pas laissé. Ça me fait trop penser aux séries policières qui...
Oui.
Meurtre A. Donc, ouais.
Oui, bon. Régional, surtout qu'en plus, bah, c'est bien marqué. C'est une région bien précise, bien marquée. Oui,
voilà. Donc,
en fait,
ça ne l'empêche pas de marcher, de
oui,
toute façon.
Oui, c'est un excellent titre. C'est un excellent titre, quand même.
Alors, donc, vous allez être tous les deux présents ce week-end au Salon du Livre sur la place de Nancy.
Voilà, avec notre ami John Bulit.
Qui devait venir, mais qui n'est pas venu, en fait.
L'ombre, j'espère qu'il sera là quand même les trois jours-ci.
Oui, j'espère qu'il viendra au Livre sur la place.
Et vous aimez rencontrer les gens, le public ?
Moi, j'adore ça. Moi, je suis un extraverti. Donc, ça s'entend d'ailleurs à la radio. Je suis bavard, extraverti. Et plus je vois de monde autour de moi, plus je suis heureux.
Ah ben c'est bien.
Donc pourtant, c'est parfait pour moi.
Est-ce que c'est quand même différent des petits salons qui essaiment la région ? Là, il y a une foule pas possible. Vous arrivez quand même à dialoguer avec les gens ?
Bien sûr, moi je m'épanouis dans la foule.
Ah,
c'est plus il y a de monde, plus je suis heureux. Enfin, en fait, j'adore qu'il y ait de la foule. Enfin,
ce qu'il y a, c'est que comme on est trois jours, il y a quand même des moments où il y a beaucoup moins de monde.
Oui,
et on a le temps de discuter. Alors, c'est vrai que quand il y a la foule qui est oppressante partout, c'est moins agréable parce qu'on dédicace rapidement et on voudrait parler, mais il y a des gens qui attendent. Mais par contre, dans les moments de calme, on peut discuter... trois quarts d'heure avec quelqu'un donc c'est ça qui est... mais il faut être là les trois jours, il ne faut pas venir juste une heure comme ci, une heure comme ça quoi.
Et les gens viennent vous voir ou c'est vous qui...
Il y a les deux, parce que maintenant on est quand même un petit peu plus connus régionalement donc il y a des gens qui viennent rechercher un livre qui nous connaissent
Et Rebelline a une grande capacité à fidéliser ses lecteurs, que ce soit pour Nathalie, pour moi ou pour les autres auteurs. Et quand les gens ont acheté un livre, généralement, ils l'apprécient et ils viennent spécialement pour acheter un livre. Tous les ans, au Livre sur la place, j'ai des gens que je n'avais jamais vus avant le premier achat qui reviennent régulièrement. Donc, et c'est pour ça qu'on est beaucoup plus serein au fil des années. Quand on fait le salon, au début, ou les premières années, on se demande est-ce qu'on va réussir à vendre correctement. Mais après, l'angoisse, elle part complètement parce qu'on a une sorte de on a créé une fidélité, une sorte de communauté de lecteurs qui aiment bien le style de notre écriture ou ce qu'on écrit, en fait.
Oui. Et bon, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, vous faites tous les deux partie du staff de la maison des
Oui, en fait, nous sommes les deux jambes de Rebelline.
et la tête, Alouette.
les deux jambes et les deux cerveaux.
C'est une maison qui existe depuis combien de temps ?
Alors, ça existe depuis 2004, donc 2004...
Ça fait
21 ans.
21 ans, donc elle est doublement majeure, même avec l'ancienne loi sur la majorité, elle serait majeure quand même. Donc.
Mais il faut dire que c'est pas une maison à compte d'auteur.
Ah non,
pas du tout. Non, mais parce que c'est important.
C'est une vraie maison d'édition, c'est-à-dire c'est une maison d'édition à compte d'éditeur. Et quand on édite quelqu'un, notamment notre dernière recrue, John Bulit, mais aussi bon, Patrick Richard, enfin, les gens, Jean-Pierre Vincent, enfin, les gens qu'on édite, on leur fait des contrats strictement à compte d'éditeur, et la personne ne donne pas un centime, ne participe à aucun frais. En fait, on travaille exactement comme les grandes maisons d'édition nationales, Viviane Amy, Flammarion, Grasset, etc. On travaille comme eux, mais à une toute petite échelle, mais on travaille exactement comme eux du point de vue déontologie.
Oui, on a aussi une correctrice officielle qui reprend, quand nous on a choisi un manuscrit, on lui envoie pour la correction définitive, donc c'est la maison d'édition qui paye, c'est pas l'auteur, n'a aucun frais.
Oui, mais c'est bien, c'est une vraie maison d'édition.
Vraie maison d'édition et on y tient beaucoup.
Sauf qu'on est tout petit, mais on est bien.
Alors l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas publier beaucoup de livres par an, parce que si on faisait payer les gens, on pourrait publier autant qu'on veut. D'ailleurs, ceux qui font payer les auteurs, ils ont au contraire, ils ont envie d'en publier le maximum. Nous, au contraire, on privilégie la qualité. Oui. Et puis donc, c'est beaucoup de travail pour Nathalie et pour moi quand on édite quelqu'un. Hein, donc, parce que les auteurs écrivent les livres, mais après nous, on fait la mise en page, on fait une première correction avant de l'envoyer à la correctrice. Enfin, y a beaucoup de travail, mais c'est un travail qu'on aime faire. Hein, mais...
Bien sûr. Et vous êtes toujours d'accord pour choisir les deux auteurs ou accepter un roman ?
Alors, on a une seule fois un désaccord sur un roman que je voulais absolument publier. Alors moi, j'étais complètement enthousiaste. Le comité de lecture, parce qu'on a un comité de lecture indépendant de nous déjà, donc le comité de lecture n'était pas d'accord. Nathalie n'était pas d'accord. J'étais le seul à être d'accord. On ne l'a pas publié. Donc,
Bon, alors après, ce qu'il y a, c'est que comme ce n'est pas notre travail non plus, il faut quand même dire qu'on n'est pas dans on n'a pas été formé pour ça. Mais donc, quand on reçoit des manuscrits, il faut déjà qu'ils soient aboutis. On ne peut pas se permettre de dire oui à quelqu'un dont le manuscrit à réécrire.
Bah, bien sûr.
Donc, il faut que le travail soit déjà abouti, il faut que tout se tienne. Nous, on va juste rajouter peut-être ou donner peut-être une tendance, etc. Sinon, c'est beaucoup trop de boulot. Puis, ce n'est pas notre boulot, de toute façon.
Oui, bien sûr.
Soit on publie comme c'est, en améliorant, en corrigeant quelques petits trucs, mais soit il vaut mieux que ça reste l'empreinte de l'auteur. Quoi.
Mais si vraiment il y a du travail, et du travail pas insurmontable, mais s'il y a du travail, mais que l'idée est bonne, la personne qui va publier est sympathique, enfin, s'il y a une alchimie qui se passe, moi je suis prêt à faire des heures de travail pour publier un roman, parce que je pense que ça vaut la peine de le faire. Si la personne et l'idée est bonne, je suis prêt à m'investir beaucoup.
Ça demande quand même de l'abnégation, parce que comme vous êtes auteur, d'être éditeur en même temps, ça vous demande quand même beaucoup de travail
en
plus.
Beaucoup de temps. Oui. Bon, on n'a pas trop de hobbies à côté, quoi.
Oui, puis c'est notre caractère. C'est notre caractère, Nathalie et moi, en fait.
Ça nous plaît quand même.
Ça nous plaît. On aime beaucoup l'écriture. On aime bien lire aussi. Donc, quand on reçoit un manuscrit, qu'on se dit de ça, on peut en faire quelque chose, ben on va en faire quelque chose.
Puis je crois qu'on s'est pris au jeu aussi de la maison d'édition. Ça nous plaît de pouvoir promouvoir d'autres auteurs que nous, quoi. C'est sympa aussi.
Ouais. Vous êtes combien dans cette maison d'édition ?
Alors, dans le staff, c'est-à-dire dans l'association, nous sommes quatre. C'est tout.
Oui.
Parce que au début de Rebeline, les auteurs faisaient partie de l'association. Et après, ça devient vite ingérable. Oui. On peut plus prendre des choix, faire des décisions. Donc, nous sommes quatre, une équipe stable. On a le comité de lecture, mais qui est indépendant, complètement de la maison d'édition. Et à partir de là, on a les auteurs qu'on publie, comme Patrick Richard, comme John Bulit. Et on aime bien ce qu'ils écrivent. Et donc, ils ont un contrat à compte d'éditeur. Et donc, ils n'interviennent pas. Ils écrivent, donc ils donnent leur avis, évidemment, on n'est pas des dictateurs. Quand on fait des modifications, on leur demande leur avis, mais en fait, ce sont nos auteurs et nous sommes les éditeurs. Et ça fonctionne bien comme ça, mais du coup...
Et puis sur le site, il y a tous les autres auteurs, parce qu'on a toujours leurs livres.
Oui, il y a Jean-Pierre Vincent.
Jusqu'à présent, on a dû publier quoi, une trentaine d'auteurs.
Oui, une trentaine d'auteurs depuis le début.
Après, libre à eux, après, de continuer avec nous, ou de voler de leurs propres ailes, ou d'arrêter. Quoi.
C'est ça. Voilà, on a fait une modification il y a quelques années. Avant, dans les contrats qu'on faisait signer, il y avait une clause de préférence. Enfin, c'est-à-dire que l'auteur s'engageait à publier le prochain roman chez nous.
D'accord.
Et ça, je l'ai complètement, on l'a complètement supprimé. L'auteur, il signe pour un livre et dès que le livre est publié, il est libre complètement pour tous les autres livres à venir.
Oui.
Ça permet d'être plus serein et que la personne ne se sente pas emprisonnée et qu'elle ne se sente pas obligée de rester avec nous si une autre opportunité se présente.
Et puis ça va avec aussi nos statuts, le pourquoi de l'association, c'est de promouvoir des auteurs régionaux, c'est pas de les garder ou de les...
Oui, voilà. Bien sûr.
Donc si eux, ils peuvent découvrir ce que c'est que le monde des salons, des dédicaces, grâce à un livre qui va leur permettre de découvrir un petit peu ce monde-là, après s'ils trouvent mieux ailleurs, au contraire, on trouve que c'est mieux qu'ils puissent voler de leurs propres ailes et découvrir autre chose.
Personne...
Maintenant, s'ils nous reproposent un livre qui est aussi bon que le premier, on n'est pas contre.
Voilà, personne n'est prisonnier. Mais
il
se crée des liens. Par exemple, Patrick Richard, il se plaît bien avec nous, il se plaît bien chez nous, il ne cherche pas à aller ailleurs. Mmh. Mais s'il voulait aller ailleurs, je ne me verrais pas le droit de l'empêcher. En fait, chaque auteur est libre. Mmh. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Nathalie a publié chez Viviane Ami sans renoncer à Rebeline, parce qu'elle n'était pas la prisonnière de Rebeline.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Alors, si vous voulez voir nos deux auteurs, Bernard Collin et Nathalie Rouillère, bon, éventuellement aussi John Bulit, qui sera au Salon du Livre ce week-end, n'hésitez pas à aller les rencontrer. Alors, merci à Bernard Collin d'être venu nous présenter son roman « La perspective des horizons » publié aux éditions Rebeline. Merci à Nathalie Rouillère d'être venue nous présenter son roman « Meurtre au Mont-Saint-Odile » publié chez Viviane Ami Éditions. Merci à Joris qui était à la technique aujourd'hui. Et nous nous quittons avec Étienne Dao et le premier jour du reste de ta vie. Au revoir à tous et à bientôt.
Au revoir.
Un matin comme tous les autres, un nouveau pari, rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Clopin clopin sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus essentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui, et le premier jour du reste de ta vie.